Merci beaucoup, merci Laura, merci à tous et à toutes, bonjour tout le monde. Je suis dans la nature, voilà, je fais partie de ceux et celles qui sont assis par terre et qui se sont fait attraper par la résine, mais tout va bien. Donc comme Laura a dit, je suis écologue et on entend souvent dans mon milieu une prophétie qui est « nous allons droit dans le mur ». Donc ça c'est quelque chose qu'on entend. Et effectivement, du point de vue de la soutenabilité de nos modèles de société, je suis de celles et de ceux qui pourraient affirmer que effectivement nous allons dans le mur. Car nos modes de vie actuels appauvrissent l'état de la nature dans lequel et avec laquelle nous vivons. Donc c'est pas du tout le mode de vie que j'ai envie de léguer à mes enfants, et vous non plus j'imagine. Alors moi je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, chercheuse impliquée et engagée en société, et du coup je fais le pari qu'il existe une multitude de chemins de traverse pour éviter ce mur. Et ces chemins sont tous différents, et pour chacun et chacune d'entre nous, et que tous ces chemins pourraient intégrer ce que j'appelle des expériences de nature. Donc quand je parle de nature ici, je la définis à l'occidental et en tant qu'écologue comme synonyme de biodiversité, c'est-à-dire un ensemble très important d'êtres vivants qui vivent en interaction permanente les uns avec les autres, dans des assemblages qui sont très dynamiques, à la fois dans l'espace et dans le temps. Cette nature, elle n'a pas besoin des humains pour exister, ni comme tuteur, ni comme gestionnaire, ni comme censeur. Elle n'est pas notre ami, elle n'est pas notre ennemi, mais nous, en tant qu'humains et espèces vivantes, nous vivons aussi en interaction avec les autres vivants, notamment pour la qualité de nos modes de vie actuels. Donc retenons que cette définition de la nature qui est un ensemble d'interactions entre un ensemble de relations. Donc je vous donne un exemple ici. Vous connaissez sans doute les mésanges charbonnières et les mésanges bleus, qui sont deux espèces de passereaux très très communs dans nos forêts et dans nos parcs urbains. Donc elles se nourrissent d'insectes et de graines, elles ont un régime généraliste tout au long de l'année. Mais pendant la reproduction, les adultes nourrissent leurs jeunes avec des chenilles, exclusivement avec des chenilles, les larves de papillons. Et ces chenilles, ils vont les collecter sur des feuilles des arbres dont les chenilles se nourrissent. Et pendant les 15 derniers jours de la période d'élevage des poussins, avant l'envol, la demande de chenilles est vraiment très importante. Mais quand les rythmes de croissance des chenilles et des jeunes mésanges sont bien calés dans le temps, les chenilles sont tellement nombreuses à cette période que chaque couple de mésanges, qui est ces tout petits oiseaux de cette taille-là, peut élever chaque printemps environ 10 jeunes à la fois. Ce qui est juste énorme. Donc tout un cycle saisonnier s'est mis en place progressivement au cours de l'histoire évolutive qui relie les arbres, les chenilles de papillons et les mésanges via les conditions climatiques et ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire la température en fin d'hiver déclenche à la fois l'éclosion des bourgeons, la croissance des feuilles, l'éclosion des œufs des chenilles, le déclenchement de la ponte chez les femelles mésanges. Et si tout se passe bien, les œufs pondus par les mésanges... Attendez bien... Je me suis déjà trompée. Les œufs pondus par les papillons l'année précédente éclosent à une date qui permet aux chenilles de manger, aux chenilles qui en sortent de manger des feuilles qui viennent d'éclore, donc qui sont pile poil comme il faut pour être tout ce qu'il faut pour que les chenilles grandissent bien. Et les mésanges, elles ont pondu leurs œufs suffisamment tôt pour que un mois après, il y ait des mésanges de la bonne taille et en suffisamment grande quantité pour que tout se passe bien au niveau de la reproduction des mésanges. Donc évidemment, avec le réchauffement climatique, tout marche plus bien, puisque les arbres y débourrent plus tôt, donc les bourgeons éclosent plus, enfin, s'ouvrent plus tôt, les chenilles naissent plus tôt, les mésanges pondent plus tôt, mais pas au même rythme. Pas forcément. Et donc le décalage de ces trois rythmes, il n'est pas toujours le même. Et donc quand les chenilles grandissent trop tôt ou trop tard, les jeunes mésanges ne peuvent pas toutes survivre. Et donc les espèces dont les individus produisent moins de jeunes finissent, enfin les populations ou les couples dont les individus produisent moins de jeunes finissent par s'éteindre ou disparaître du milieu en question. Et voilà. Donc ça, cette histoire naturelle, elle prend place dans les forêts françaises, les jardins, les parcs urbains, tous les ans. Là où nichent les mésanges, c'est super commun. Il y en a combien qui connaissent cette histoire? Voilà, pas beaucoup. C'est normal. Pourquoi c'est... Voilà. Et donc une des raisons pourquoi, enfin j'en sais rien, pourquoi tout le monde, personne connaît cette histoire alors que c'est quelque chose qui se passe devant nos yeux tous les ans, tout le temps. Donc une première réponse vient de ce qu'on appelle... de ce que le lépidoptériste américain Robert Pyle a fait, l'extinction de l'expérience de nature, dès les années 1980. Donc en 93, il publiait un texte qui a été traduit et publié en 2016 en français, ouais, où il détaille son hypothèse. Je cite « Je pense que l'une des plus grandes causes de la crise écologique est l'état d'aliénation personnelle par rapport à la nature dans lequel vivent de nombreux individus. En tant que culture, ce qui nous fait défaut, c'est un sens étendu de l'intimité avec le monde vivant. D'une certaine manière, l'histoire naturelle n'a jamais été aussi populaire. Pourtant, Peu sont ceux qui organisent leur vie autour de la nature ou qui se laissent profondément émouvoir par elle. La profondeur de notre contact est trop souvent insuffisante. Alors effectivement, de nombreux travaux en psychologie du développement suggèrent que chaque personne se construit tout au long de son enfance en intégrant toutes les expériences vécues dans un ensemble cohérent de ce que Festinger appelait les cognitions. Donc c'est avoir des savoirs, des croyances, des actions, des émotions, enfin tout ce qui fait tout ce qu'on est, quoi. Et cet ensemble cohérent de cognitions, il se stabilise un peu au début de l'âge adulte. Évidemment, il n'est pas fini, hein, on peut toujours continuer à s'enrichir. Mais il sert de référence un petit peu quand même aux adultes que nous sommes pour évaluer ce qui arrive plus tard dans nos vies. Et donc en poursuivant la réflexion de Pyle, l'hypothèse de l'extinction de l'expérience postule que les modifications des modes de vie dans nos sociétés modernes, à la fois par l'urbanisation, mais aussi la disparition des terrains vagues, d'autres espaces de nature, mais aussi la diminution de l'attrait pour ces espaces, donc toutes ces modifications ont pour conséquence de diminuer la place de la nature et des expériences vécues avec elle dans les socles de référence des générations successives d'adultes. Alors, dans les années 2000, le psychologue américain Peter Kahn Jr., qui étudie les liens entre nature et santé mentale, a ajouté un élément à cette hypothèse, celui de l'amnésie environnementale générationnelle. Donc, dans un texte, il l'a décrit plusieurs fois, mais dans un texte paru en 2002, il explique, je cite, « À chaque génération, la quantité de dégradation environnementale augmente, mais chaque génération prend les conditions dégradées qu'elle côtoie dans sa jeunesse comme une condition non dégradée, comme une expérience normale. » Donc si on met les deux hypothèses bout à bout, ça donne une sorte de cliquet de non-retour. La nature se dégrade autour de nous, nous en faisons de moins en moins l'expérience, surtout en tant qu'enfant. Nous l'intégrons de moins en moins dans nos socles de référence de ce qui est normal et bien pour nous. Et nous oublions que ce que nous considérons comme normal, ce n'est pas la même chose que ce qu'on considérait nos parents et nos grands-parents. Alors il n'y a pas de raison de nous soucier de cette nature. Et donc suivant cette hypothèse-là, une spirale se forme qui nous entraîne vers de moins en moins de nature autour de nous. C'est un peu triste, mais vous en faites pas, j'en suis qu'au début. Je pourrais vous donner plusieurs exemples en France et dans le monde occidental qui recensent des activités de nature de moins en moins nombreuses chez les enfants, des générations qui se succèdent, mais je pense que vous en connaissez tous beaucoup plus que moi. Donc cette séparation des humains avec la nature, elle se retrouve dans la façon dont nous avons de la décrire et de la mettre en scène dans nos imaginaires. Donc plusieurs études vont dans ce sens pour dire que les façons de parler ou de représenter la nature ont changé, certains diraient se sont appauvries, depuis les années 1950. Donc par exemple en Australie, une équipe autour d'une chercheuse, je ne sais plus, qui s'appelle Bab, a montré une diminution avec les années de la place de la nature, alors ici c'était les paysages avec de la végétation, dans les dessins des livres pour enfants, au profit de paysages bâtis et urbains. Une autre équipe avait retrouvé le même résultat chez des livres pour enfants primés au Canada depuis les années 50. Et j'ai moi-même étudié la place du végétal dans les décors des scènes d'extérieur dans tous les longs-métrages Disney produits entre 1937 et 2010. Et j'ai montré que les paysages extérieurs avaient tendance à être dessinés avec moins de végétation avec les années de production. Donc ici, plus précisément, en fait, il y a certains films récents, depuis 80-85, qui n'intègrent pas du tout de nature et de végétation dans les paysages extérieurs. Et tout ça, c'est comme si les représentations mentales de ce que sont les paysages extérieurs intégraient de moins en moins de nature chez les générations successives de dessinateurs et dessinatrices, à la fois de livres pour enfants ou de films ou de dessins animés, en Amérique du Nord et en Australie depuis les années 40. Alors attention, parce que le fait que la nature est moins présente dans les représentations visuelles de ces œuvres artistiques, ça ne veut pas dire que celles-ci ne parlent pas d'écologie. Au contraire, les messages pro-environnement et écologiques sont de plus en plus présents dans les livres pour enfants étudiés par Bab et ses collègues. En Australie, c'est sûrement la même chose dans les dessins animés Disney. Mais ici, en fait, il s'agit de différencier à la fois les messages explicites qui s'adressent à une partie de notre cerveau, et puis les messages implicites, même quelquefois à l'insu de leurs propres auteurs, qui sont reçus par d'autres parties de notre cerveau. Alors, une autre étude récente indique une tendance similaire avec le vocabulaire. Donc ça va plaire aux nos amis linguistes, employés pour parler de la nature. Donc les deux chercheurs, Kessebir et Kessebir, ont quantifié la place relative occupée par 160 mots communs pour désigner la nature ordinaire dans un échantillon de romans, de films et de chansons populaires en langue anglaise depuis les années 1900 pour les romans, 1930 pour les films et 1950 pour les chansons. Et ils montrent dans tous les cas une diminution de la place de ces mots dans ces produits culturels, au profit pour les romans de mots qui désignent des créations humaines, donc les mots chaise, table, lit, etc. Donc ici, quand je parle de, enfin, quand il parle de mots de la nature ordinaire, il parle de noms aussi courants que des noms d'arbres. Donc ici, en anglais, hein, enfin, dans le contexte anglais-américain, magnolia, noisetier, séquoia. Des noms de fleurs, anémone, rose, tournesol, thym, etc. Des noms d'oiseaux, avocet, héron, pic, fauvette. Des mots génériques de nature comme oiseau, fleur, arc-en-ciel, tempête. Donc j'ai pas connaissance d'études en français, mais peut-être qu'on pourrait faire la même chose. Voilà, je vous lance une perche, ça pourrait être la même chose. Et puis d'ailleurs, on pourrait prendre un petit peu garde à ce qu'on est capable de décrire comme nature autour de nous. Vous savez, cet arbre-là que Laura a décrit comme un arbre, je suis infoutue de dire ce que c'est et c'est la honte, mais ce serait quand même bien de connaître le nom de cette espèce. Est-ce que quelqu'un sait ? C'est un châtaignier, voilà. Eh bien, la prochaine fois, tu diras châtaignier. et donc, en ville, par exemple, est-ce qu'on est toujours entouré de corneilles, de merles, d'étourneaux, de rouges-gorges, de mésanges bleus, de mésanges charbonnières, de pigeons bisettes, de pigeons ramiers, de goélands, de moitrieuses ? Ou alors, est-ce qu'on est souvent entouré d'oiseaux plus ou moins gros, plus ou moins gênants, plus ou moins noirs ? Voilà. Donc, toutes ces espèces, elles existent à Paris. Hein. Voilà. Elles n'ont pas encore disparu. Donc après, vous me direz, c'est peut-être pas grave de ne pas avoir conscience de toutes les espèces qui nous entourent et de leurs histoires naturelles, du coup de ne pas en tenir compte dans nos modes de vie. Une autre question, on pourrait peut-être collectivement nous libérer enfin de cette nature qui nous enduit quand même. C'est d'ailleurs un des objectifs du directeur de l'usine de conditionnement des bébés dans Le meilleur des mondes de Adolf Sussclair, donc écrit en 1931. Donc son directeur, il est très fier d'expliquer aux étudiants qui visitent son usine comment il conditionne les enfants à détester la nature. Donc je cite, le directeur, il dit « Ils grandiront avec ce que les psychologues appelaient une haine instinctive des livres et des fleurs, des réflexes inaltérablement conditionnés. Ils seront à l'abri des livres et de la botanique pendant toute leur vie. » Et à une des questions des étudiants, il dit bah, « Si on fait en sorte que les enfants se mettent à hurler à la vue d'une rose, c'est pour des raisons de haute politique économique. Les primes verts et les paysages ont un défaut grave, ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. » Voilà, c'était en 1931. Alors maintenant, en 2019, l'IPBES. L'IPBES, c'est quoi ? International Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. C'est le GIEC de la biodiversité. Il existe depuis une dizaine d'années, personne ne le connaît, mais pourtant, il existe et il fait des choses vraiment très bien. Donc c'est un rassemblement d'experts internationaux qui travaillent sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques dans le monde. Et en 2019, donc, ils ont fait un premier rapport sur l'état global de la biodiversité et des services écosystémiques. Et ils affirment qu'aucun des objectifs de soutenabilité adoptés par les Nations Unies en 2030, donc les fameux objectifs de développement durable, ou pour 2050, qui s'appelle « Vivre en harmonie avec la nature », donc aucun de ces objectifs ne sera atteint sans, je cite, « des changements transformateurs profonds de nos modèles économiques, sociaux, politiques et technologiques ». Je continue la citation, « Cela inclut des transformations individuelles et collectives de nos modes de pensée, de nos valeurs, de nos relations aux autres et à la nature. » Fin de citation. Donc ce rapport insiste, la nécessité des changements transformateurs a été repris par un rapport conjoint entre le GIEC et l'IPBES en 2021. Donc actuellement, le mot « changement transformateur » est devenu un concept qui commence à prendre de la valeur dans les collectifs internationaux scientifiques de protection de l'environnement. Donc ce rapport insiste sur le fait que pour mettre en œuvre ces changements transformateurs, il nous faut agir ensemble, en intersectoriel et par des coopérations entre acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Je reprends les mots de Joël sur l'interdisciplinarité. Mais surtout, il s'agit de réfléchir à nos visions de ce qu'est une bonne qualité de vie ou une bonne vie, aux valeurs que nous portons pour décider comment remettre la nature et la biodiversité au cœur de celle-ci. Donc pendant ces 4 jours, nous allons discuter et vivre des expériences de nature, des façons variées de nous connecter avec ce vivant non humain et de proposer à des enfants de le faire. Ce n'est pas uniquement pour nous faire plaisir ou pour notre bien-être, ce n'est pas non plus uniquement pour améliorer la qualité de vie et d'apprentissage des enfants, mais je pense et j'espère qu'il s'agit aussi d'ouvrir des voies pour des changements transformateurs profonds de nos modèles de société vers plus de soutenabilité entre les vivants, qu'ils soient humains et non humains. Donc une première idée pourrait tout simplement, et je pense que vous le faites évidemment tous et toutes, de regarder et de copier ce que font les enfants. Parce que les enfants, ils vivent en effet spontanément des expériences de nature. Ils s'amusent, ils jouent, ils inventent des mondes dès qu'on leur laisse la possibilité. Donc en 2007, la chercheuse Marie-Laure Ryan, j'ai fait une biblio après qu'il faudra que je t'envoie. Ouais. Donc caractérise le jeu comme une activité facultative dans un autre espace-temps par rapport à nos environnements de la vie courante. Et ce jeu, il n'a pas de conséquences durables pour le ou les joueurs. Donc en anglais, il y a deux mots pour dire jeu. Vous savez, il y a play et game. Et donc le jeu play peut être le jeu libre, en fait. Et donc celui-là, il est là, dans ce jeu libre, hein, les joueurs, ils inventent au fur et à mesure les règles qu'ils font. Et le monde de ce jeu-là, il est par définition imaginaire. Donc ici, je ne sais pas où on pourrait être ici, mais chacun peut être dans un endroit différent en fonction de comment il joue. Et ce qui est intéressant, c'est que la seule menace de ce jeu, c'est l'irruption du monde courant dans cet espace-temps. Et par exemple, l'intervention d'adultes pour appeler au bain ou à table. Voilà. Ça, c'est le parent. Et donc, jouer et imaginer des mondes sans autre objectif que prendre du plaisir, la plupart des jeunes enfants le font encore spontanément, sans avoir l'impression de perdre leur temps. Mais ils sont sans doute un peu trop souvent bridés dans leurs élans par nous, les adultes, souvent pour des bonnes raisons, hein, mais des raisons d'adultes. C'est pas sérieux, c'est salissant, c'est dangereux, ça va te faire mal, etc. Voilà, par exemple, dans un centre de loisirs américain, Copeland et ses collègues ont montré en 2012 que si les enfants n'allaient pas tellement dehors, c'est surtout car les adultes accompagnants n'aimaient pas ça. Donc elles avaient froid, c'était elles parce que c'était souvent des accompagnantes, ça prenait du temps d'habiller et de déshabiller les enfants, etc., etc. Alors même qu'elles connaissaient très bien les effets, les bienfaits de jouer dehors pour les enfants, notamment en termes d'obésité, ce qui était le thème de l'étude des chercheuses en question. Donc une autre raison souvent évoquée pour ne pas laisser les enfants s'amuser dehors, c'est qu'ils et elles n'apprennent rien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Écotopia. C'est un pays qui est composé de 3 États à l'ouest des États-Unis, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, qui ont décidé de faire sécession avec les États-Unis dans les années 70 et qui ont développé une république écologique, Écotopia. Et le journaliste américain William Weston est le premier autorisé à venir découvrir ce pays 20 ans après la sécession. Et il écrit des articles pour son journal, le Washington Post. Et voilà un extrait de ses articles, intitulé « Les surprises de l'éducation écotopienne ». Donc il dit « Les écoles écotopiennes ressemblent plus à des fermes qu'à autre chose. Un enseignant écotopien à qui je faisais cette remarque m'a répondu « Eh bien, c'est parce que nous sommes définitivement passés à l'ère de la biologie. Votre système scolaire est toujours dominé par la physique. Voilà pourquoi il y règne une atmosphère de prison. Comment voulez-vous que quoi que ce soit s'y développe ?» Alors le journaliste continue, même en l'absence d'un programme d'études précis, les élèves apprennent bel et bien à lire, à écrire, à calculer, mais ils ont tendance à faire leurs apprentissages dans des contextes très concrets. Ils acquièrent également beaucoup de connaissances et de compétences en dehors du cursus classique. Tout jeune de 10 ans, je l'ai observé, sait construire un abri, cultiver des légumes, chasser pour se nourrir, confectionner des vêtements simples. Il connaît des centaines de plantes et les mœurs d'autant d'animaux. Alors vous avez compris que ce pays est un pays fictif. Et que le journaliste fictif William Weston décrit en 2075, finalement en 1975, pardon, dans le livre de Ernest Callenbar, Écotopia. C'est en partie expérimenté depuis quelques années dans les dites écoles en forêt, dont on va beaucoup parler pendant ces 4 jours, notamment en Grande-Bretagne. Donc je dis en Grande-Bretagne parce que j'ai trouvé un article en 2019 qui s'intéresse à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et donc Janine Coates et Elena Pimlott-Wilson, elles ont questionné une trentaine d'enfants de 2 écoles primaires anglaises qui pratiquent ces fameuses écoles en forêt, où là, les enfants passent au moins une demi-journée par semaine dans un espace de nature sécurisé et ils pratiquent des jeux libres en interaction avec la nature. Les enfants interrogés par les chercheuses ont confirmé que ces sorties leur permettaient de jouer, mais aussi d'apprendre à utiliser des outils, à faire des choses de leurs mains et de leur corps, à prendre confiance en eux, à résoudre des problèmes, etc. Ils ont aussi beaucoup parlé d'une sensation de liberté retrouvée. Mais ce qui m'a beaucoup interpellée dans cette étude, ce sont les différences que les enfants faisaient ou non entre jeux libres et apprentissage. Alors que les plus jeunes, 4-5 ans, l'équivalent du cycle 1, faisaient directement le lien, les enfants de 8-9 ans dissociaient le temps en classe dédié aux apprentissages et celui passé dehors dédié aux jeux. Comme si les enfants de 8 ans avaient déjà bien intégré les normes sociales de nos sociétés modernes, on joue pour se faire plaisir dans des moments de loisirs, mais à l'école ou dans les moments sérieux, on apprend sans jouer. Et c'est déjà 8 ans, hein, c'est quand même pas très vieux. Donc, mais alors du coup, s'il faut apprendre pour la nature, qu'est-ce qu'on apprend dans la nature ? Donc je refais un petit peu de biblio ailleurs qu'en France. Les chercheurs Douglas Medin et Megan Bank, qui sont deux chercheurs américains et américains-européens et américains natifs, voilà, ont travaillé avec des enfants euro-américains et des enfants de la communauté américaine native des Mémominés dans l'état de Wisconsin. Et ils ont montré que ces enfants de 5 à 7 ans avaient tous le même degré de connaissance des plantes et des animaux, mais que les mémominés étaient plus capables de parler des relations entre les êtres vivants et avec les entités non vivantes, que sont les nuages, l'eau, les saisons, le vent, le soleil, etc., que les euro-américains. Et la même équipe de recherche a analysé plusieurs dizaines de livres illustrés pour enfants et qui montrent des scènes de nature, livres créés et dessinés par des auteurs et autrices euro-américains et euro-américains natifs. Et leur étude montre que les dessins des livres pour enfants des communautés natives proposent plus de perspectives variées sur les scènes représentées. Les textes associés aux dessins mentionnent plus de noms différents et spécifiques d'animaux et de plantes, et qu'ils décrivent plus souvent les cycles naturels des saisons ou le temps qui fait. Disons que c'est deux façons très très différentes de représenter la nature, entre guillemets. De comme si les personnes de culture occidentale étaient essentialistes, au sens où elles sortent les éléments de la nature de leur contexte et elles leur donnent des attributs généraux, alors que les personnes d'autres cultures privilégient plutôt des descriptions contextuelles et basées sur les relations des êtres entre eux. Est-ce que ces deux façons de s'approcher de la nature sont culturellement ancrées et elles restent incompatibles l'une avec l'autre? Eh bien non, en fait. Ça, c'est, commence les bonnes nouvelles, attention. Donc, dans son travail de recherche, Mara Sierra Jimenez, qui n'est malheureusement pas là cette semaine, a demandé à des jeunes enfants de CP parisiens de dessiner un arbre, un ver de terre ou un oiseau. Et une grande partie d'entre eux ont mis cet élément de nature en contexte, en train de faire quelque chose en relation avec les autres êtres vivants. Et donc finalement, les enfants français, quand on leur dit rien, ils semblent spontanément friands de ces histoires naturelles, de ces histoires de relations entre les êtres. Donc on pourrait peut-être leur raconter l'histoire des mésanges, des chenilles et des bourgeons. Voilà. Donc finalement, il y a de l'espoir. Ouf. Donc quelques idées pour finir quand même, quelques propositions de mise en œuvre en tout cas. Donc le premier, c'est évidemment faire en sorte qu'existent dans les espaces publics des endroits qui rendent les expériences de nature possibles, notamment pour les enfants, des espaces de jeux libres, hors équipements urbains réalisés pour eux, ces fameuses plaines de jeux où on envoie comme ça là, des enfants tout le temps. Donc il y a une cinquantaine d'années, c'était les terrains vagues. Maintenant, ça peut être juste un petit bosquet, un terrain en pente, où on peut faire des glissades, un petit bout d'herbe pas tondu, où on peut attraper des insectes, inventer des mondes, etc. Enfin, tous ces espaces qui sont rasés par les aménageurs sous prétexte de sécurité. Donc redonner des espaces physiques aux enfants et aux adultes d'entrer en espace en expérience de nature, voilà un premier point. Mais pour ça, il faut autoriser les usages de ces espaces. Donc autoriser par des réglementations, bien sûr, mais ce qui n'est pas toujours le cas en France encore, mais aussi dans les mœurs et dans les normes sociales. Donc dans un article intitulé, en 2014, intitulé « Hey parents, leave those kids alone, foutez-leur la paix !» Voilà, la journaliste Madame Rosine raconte comment, en une génération, les enfants ont perdu cette liberté de faire des choses hors du regard de l'adulte. Elle cite pour cela l'anthropologue Roger Hart, qui avait travaillé auprès d'enfants dans les années 70 et qui disait que les enfants rencontrés à l'époque passaient beaucoup de temps seuls à faire des cabanes dans les arbres et à s'inventer des mondes pour rien, avec rien. Et maintenant, ils vont jouer dans des espaces qui leur sont dédiés et toujours sous le regard de leurs parents. Mais en plus des expériences directes de nature, pourquoi ne pas aussi valoriser ce que font beaucoup de jeunes et d'adultes actuellement des expériences de nature virtuelle? Ce que le psychologue Stéphane Kellert appelle les expériences vicariantes de nature. Donc par une enquête auprès d'un million de joueurs confirmés du jeu en ligne World of Warcraft, je ne sais pas si vous savez jouer à ça, World of Warcraft, et d'un échantillonnage virtuel des types de nature présents dans les différentes régions du jeu, le jeune chercheur Minsun Truong a montré en 2018 que les joueurs francophones vont en jeu, souvent pour se détendre après des journées fatigantes, mais ils vont en jeu, enfin, et que les régions du monde virtuel qu'ils préfèrent sont des régions avec plus de végétation, mais pas trop dense, et moins d'infrastructures humaines. Comme si les joueurs allaient virtuellement dans un espace de nature verdoyante et non angoissante pour se reposer de leur journée. Alors, un résultat intéressant des travaux de Minsun, c'est que si les joueurs qui se déclarent plus connectés avec la nature choisissent significativement plus souvent des avatars proches de la nature en jeu, ce sont aussi ceux qui déclarent le moins souvent aller en jeu pour avoir accès à la nature virtuelle. Comme si le virtuel n'était pas considéré comme un ersatz de nature pour celles et ceux qui se sentent plus connectés à elle dans la vie réelle. Ouf. Et pour un autre public, ce sont encore et surtout les livres et les romans qui fournissent le plus de moments d'évasion et d'imaginaire. Donc moi, j'ai moi-même suivi les aventures de Patricia Westerford, docteur en botanique, désavouée par ses pairs, et qui se retranche dans la forêt, dans le livre de Richard Powers, L'Arbre Monde, best-seller il y a 3 ans. Donc je cite, en parlant de Patricia, « Elle a cessé de théoriser et de spéculer, se contente d'observer, de noter, de dessiner. » Bien des nuits, elle campe à la belle étoile avec Muir sous le sapin et l'épinette, complètement perdue, tourneboulée par l'odeur des océans terrestres, dormant sur des lits d'épais lichens, 50 cm d'oreiller d'aiguilles brunes, avec la terre vivante sous son duvet et son influence fluide qui monte dans toutes ses fibres, comme dans tous les troncs d'arbres géants qui l'entourent et qui la veillent. Elle va finir par faire peur aux gens. Ceci dit, elle a toujours fait peur aux gens. Des gens aigris qui haïssaient la nature sauvage lui ont confisqué sa carrière. Des gens apeurés l'ont moquée pour avoir dit que les arbres s'envoient des messages. À tous, elle pardonne. Ça n'est rien. Ce qui effraie le plus ces gens se muera un jour en miracle. Alors les gens feront ce que 4 milliards d'années les ont façonnés à faire, prendre le temps de voir ce qu'ils regardent. Donc pour conclure, je dirais qu'en tant qu'êtres vivants nous-mêmes, nous sommes toutes et toutes en relation avec la nature, ce vivant non humain qui nous entoure, que nous le voulions ou non. Alors pourquoi ne pas utiliser la réalité de ces liens comme point d'entrée pour recréer les dialogues rompus entre nous et reconstruire un commun social ? Ça ne va pas être facile. Les experts de l'IPBES étaient bien conscients en 2019, je cite, « De par sa nature même, un changement transformateur ne peut que se heurter à l'opposition de ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo, mais il est possible de venir à bout de cette opposition dans l'intérêt du plus grand nombre. » Alors, soyons curieux et curieuses de cette nature qui nous entoure, retrouvons les histoires naturelles qui font sens pour nous, osons, tous et toutes à notre niveau et avec nos envies, nos responsabilités, nos contextes de vie. Expérimentons des choses, trompons-nous, c'est normal, recommençons, et puis inventons des moyens de nous en parler. Prenons appui sur des expérimentations qui ont fait leurs preuves pour permettre à des individus ou des groupes en conflit ouvert de s'écouter, se comprendre et construire du commun. Tout ça pourra nous permettre d'emprunter ensemble des chemins de traverse. Nous ne savons pas où ça va nous mener, et ça peut nous faire peur, parce que nous apprenons à tout faire pour ne pas savoir où on va. Mais au contraire, faisons-en une force. Les chemins eux-mêmes seront source d'invention et d'innovation collective. Faisons-nous confiance à nous, humains et non-humains. Nous pourrons suivre ces chemins avec d'autant plus de plaisir que nous les aurons balisés et que nous les vivrons pleinement. Et par eux, inventons ensemble une diversité de futurs soutenables et souhaitables pour tous et toutes. Je vous remercie.
Merci Anne-Caroline. On a... Merci Châtelier. On a largement le temps de l'échange. Donc, on vous propose une petite session de questions du public. N'hésitez surtout pas. On n'a pas de deuxième micro. Donc, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à faire porter votre voix de cette manière, de manière à ce qu'on vous entende. La parole est à vous.
Merci beaucoup. On a mené une recherche-action en Lozère avec des expériences, on en reparlera plus tard, d'école en forêt. Mais sur le point que vous avez signalé, là, des enfants qui considèrent qu'ils n'apprennent pas quoi, quand ils jouent, enfin, à partir de 8 ans, et tout ça, ben, on a eu la même... on a ça dans les journaux, la même remarque et la même observation des enseignants qui disent... qui réagissent au début à des enfants qui disent bah on n'a rien fait alors qu'en fait ils n'avaient pas arrêté quoi. Et aussi avec le pour faire un autre clin d'œil avec votre propos le fait que ça évolue vite quoi. Ça se transforme très vite mais on a ça. Merci.
Le point positif c'est de vous dire que ça évolue vite ça veut dire c'est un point positif.
Et je me demandais, pourriez-vous reparler de l'idée que dans la culture occidentale, on aurait une relation essentialiste, et dans la culture autochtone, vous parliez d'une relation plutôt...
Oui, alors c'est moi qui ai donné ces mots essentialiste et pas essentialiste, je ne sais pas si c'est les bons termes,
okay.
Mais ce que j'ai lu et ce que je pense, discutable, c'est cette diversité des façons d'entrer en relation, de se représenter et de parler de cette nature non humaine. Donc soit, là j'ai cité un article, mais il y a d'autres articles qui ont fait ça, qui ont travaillé sur à peu près les mêmes questions en comparant ce que font les étudiants tous aux États-Unis, mais des étudiants américains, des étudiants d'origine asiatique, japonais, coréen. Et c'est un peu la même chose en gros, ça veut dire que pour les occidentaux Europe du Nord, États-Unis, quand on fait décrire une image de nature, ben les gens vont décrire en disant ben y a tant d'individus de tel truc, tant de ça, etc. Alors que les gens d'autres cultures vont plus décrire l'image en, en elle-même, c'est-à-dire il y a machin qui est en train de jouer avec truc, il y a ici on voit la saison, il y a des nuages qui vont, c'est le soir, c'est le matin. Voilà, donc c'est la façon de décrire est beaucoup plus contextualisante dans d'autres cultures que la culture occidentale. Et la place de l'humain est aussi assez intéressante, j'en ai pas parlé, mais dans ces deux types d'articles, on voit que la façon de mettre l'humain en perspective dans le non-humain ou dans la nature non-humaine, chez les Américains natifs, même les dessins pour enfants sont des dessins avec l'horizon très haut. On a l'impression d'être dedans en fait. Et pour les dessins des Japonais aussi. En tout cas, les étudiants japonais, quand on leur demande de dessiner un bout de nature, ils le font avec un horizon très haut, alors que les étudiants américains le font avec un horizon bas, donc qui montre une perspective où en fait l'horizon est très haut, on a la perspective d'être à l'intérieur de l'image, alors que quand l'horizon est bas, on n'est pas à l'intérieur de l'image, on le regarde de loin. Et ça me paraît intéressant, ça me paraissait vraiment intéressant parce que ça permet de comprendre aussi comment nous, on se met en scène par rapport au reste du vivant, et on s'en met en scène de façon extérieure. Alors que d'autres... Et c'est pas obligatoire de faire ça. C'est ça qui m'a plu en lisant ça. Je me dis, il y a d'autres façons de faire. Quoi. Et on pourrait essayer de mixer. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais on pourrait essayer de mixer les différentes façons en fonction des sensibilités de chacun et en fonction des contextes.
Ouais, je voulais savoir si, à votre connaissance, il y avait... une notion qui serait celle de la culture de la nature, c'est-à-dire que on a parlé des dessinateurs qui perdaient en compétences, on a parlé des compétences qu'on acquiert quand on évolue dans un milieu naturel. Est-ce que c'est parce que en fait c'est ça quelque part. Est-ce que cette notion elle existe dans une autre langue ou...
Donc la question c'est est-ce qu'il y a une culture de la nature dans d'autres langues ou dans d'autres cultures. Oui, on parle de ça, ouais. Ouais. Je sais pas répondre à votre question en termes de différences interculturelles, en tout cas je sais pas, c'est un peu l'objectif de mon étudiante que je co-encadre Laura au Sénégal, mais enfin bon après c'est pas exactement ça, mais donc je peux pas encore répondre à votre question, revenez dans 2 ans mais par contre d'autres, enfin en restant sur la culture occidentale et au niveau des créateurs d'œuvres artistiques, quelque chose que Laure connaît par cœur, qui est ici, parce que je n'arrête pas d'y en parler. Mais depuis 2 ans, j'essaie de travailler sur un peu qu'est-ce que les œuvres artistiques populaires nous montrent de la nature en relation avec elles, et comment est-ce qu'on pourrait passer par des œuvres artistiques populaires pour voir ça. Et donc après les dessins animés de Disney, je me suis intéressée aux blockbusters de science-fiction. Et donc j'ai regardé une quarantaine de blockbusters de science-fiction et films de super-héros cet été en pensant que, vu que c'est des œuvres qui inventent des futurs, ben, ils pourraient inventer des futurs où la nature est présente, en tout cas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres relations. Et en fait, pas du tout. Donc la nature est un décor complètement, et donc celle qui est présente dans les œuvres populaires, hein, donc blockbusters de science-fiction, qui sont pratiquement tous américains de fait, c'est une nature qui est la même nature qu'on voit actuellement dans les décors, enfin dans les villes et dans les campagnes. Et puis elle est souvent, quand elle est mise en scène autrement que comme décor, elle est mise en scène à usage des protagonistes. Les seules personnes qui sont un peu plus en relation d'autres relations avec cette nature, c'est les super-héros. Et ceux qui sont des déesses, par exemple, enfin certains super-héros, donc Wonder Woman, c'est une déesse. Hein, et donc elle a une belle relation avec les animaux, les plantes, etc. Mais du coup, l'image, ou en tout cas l'image ou le message implicite que font passer ces films-là, c'est pas une image de relation possible différente avec le monde naturel. Et j'ai présenté ces résultats au hasard d'une rencontre avec l'éditeur de ActuSF, qui est un magazine de science-fiction français, et il m'a dit « Bah ouais, c'est normal de toute façon, parce que les auteurs et autrices de science-fiction, ils sont comme nous, hein, ils connaissent pas, donc comment tu veux qu'ils mettent en scène des trucs qu'ils connaissent pas ?» Et voilà. Alors après, évidemment, il y a d'autres livres... et d'autres romans et d'autres œuvres de différentes cultures qui ne sont pas aussi populaires, mais qui existent et qui mettent en scène, et notamment des romans, il y a des livres de science-fiction, certains auteurs et autrices de science-fiction qui mettent en scène, enfin qui inventent des choses vraiment différentes sur les relations avec le vivant non humain, donc ça c'est intéressant. Mais après, et puis certains romanciers et romancières de fait, qui font des livres que certaines communautés scientifiques commencent à appeler les livres écologiques, mais qui sont des livres où finalement, je ne suis pas spécialiste de ça, mais qui sont des livres où finalement, une partie de la différence avec ça, c'est qu'ils mettent, ils racontent des narratifs de processus en cours. Il n'y a pas de fin. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant à creuser, parce que je parlais de changement transformateur, où c'est intéressant le chemin qui se fait. Et finalement, ces livres-là, c'est des histoires, c'est des tranches de vie. Et il n'y a pas de fin. Donc, on ne cherche pas à atteindre un objectif, à gagner, machin, voilà, et avoir du manichéisme. Et voilà, donc là, c'est pareil, revenez dans 3 mois, parce que j'ai une étudiante qui devrait faire ça. Travailler un petit peu sur la réception de 2 romans que j'ai trouvé intéressants là-dessus, et voir comment, qui les aime et pourquoi elle les aime.
Je voudrais savoir aussi, par rapport à la vision européenne aussi très prégnante depuis plus d'un siècle, de la nature comme source des cures, hein, tout ce qui est la cure de santé, voire les colonies des vacances, hein, même si là maintenant c'est devenu trop contraint, trop autoritaire, tout est réglé d'avance. Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses, disons, dans des domaines non anglophones, des cultures non anglophones, et est-ce que vous pouvez nous donner aussi des pistes, des savoir-faire ou des tentatives d'explorer aussi autrement les...
Ouais, merci de votre question. J'ai pas fait encore assez de recherches pour les domaines, les façons de voir le monde autrement qu'occidental et francophone et anglophone. Et malheureusement, bon, une bonne partie c'est parce que je parle pas espagnol, il faut le faire. Mais par contre, voilà. Mais par contre, pour revenir un peu sur votre première partie de votre question, j'ai pas parlé de ça, mais les relations à la nature ou les valeurs de la nature ou les façons de se rentrer en contact avec la nature, elles ont été théorisées par les écologues et par les experts même des communautés internationales. Vous connaissez tous sans doute dans les années 2000 le concept de service écosystémique qui avait été proposé par un collectif d'experts des Nations Unies, mandaté par les Nations Unies, qui s'appelait l'évaluation pour le millénaire. Et qui avait fait un rapport en 2005 qui s'appelait « Services écosystémiques, nature et bien-être humain ». Et en gros, c'est des écologues, au départ, qui avaient fait ça et qui avaient trouvé une façon de présenter la biodiversité, une façon qui pouvait potentiellement intéresser plus les humains que juste dire « Regardez les champs, les petits oiseaux et machin comme ça ». Et donc, ils avaient proposé 4 grands types de services écosystémiques, les services de régulation, donc les écosystèmes naturels nous permettent de réguler la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la température, etc. Les services d'approvisionnement, donc c'est parce que c'est grâce aux écosystèmes naturels que nous avons accès à de la nourriture, à du bois, à des vêtements, à de quoi se... Et puis les services de soutien, qui étaient en fait le fonctionnement des écosystèmes naturels qui leur permettent de fournir les autres services directement en lien avec les humains. Et le troisième catégorie de services directement pour les humains était les services culturels, où ces gens-là, ces experts, avaient mis tous les autres services. Je trouvais qu'a priori, cette initiative en 2005 était une belle initiative pour essayer de faire parler, et ça avait marché, on avait commencé à parler de la biodiversité. Mais les écologues n'en ont rien fait de plus, et ce concept a été assez vite repris par des économistes, et notamment par, je suis d'accord, j'aime beaucoup ce que font beaucoup d'économistes, mais par notamment certains économistes qui ont marchandisé et qui ont monétarisé du coup ces services. Donc ça a été, de notre point de vue d'écologue, ça a été dévoyé. Sauf qu'on en a quand même parlé de la nature. Donc actuellement, les services écosystémiques, on en parle, mais dans la communauté scientifique, on parle d'autre chose. Donc l'IPBES a proposé une autre façon de parler des relations entre biodiversité, entre systèmes naturels et systèmes humains, qui s'appelle les contributions de la nature aux humains. Et ces contributions de la nature aux humains, donc les Nature Contributions to People, les NCP, et cette contribution de la nature aux humains, c'est en fait un concept qui permet d'expliciter que nous sommes en relation avec cette nature non humaine et qu'elle vit sans nous, mais que certains éléments, on peut, si on a décidé, nous, certaines sociétés humaines, que c'était intéressant pour nous, qu'on mettait en route des moyens pour utiliser ces éléments, etc., etc., ça pouvait devenir des choses qui permettent d'augmenter notre qualité de vie. Et qu'en retour, on agissait aussi sur la nature. Donc il y avait une espèce de cycle quand même entre qualité de la nature et qualité de la vie des humains. Donc ça, c'est le cadre conceptuel de l'IPBES. Et pour finir, l'IPBES, on parle de relations à la nature. Il y a maintenant, avec les apports de l'IPBES et d'autres chercheurs, on peut parler de trois grands types de relations, de valeurs par rapport à la nature, que les humains donnent à la nature. Les valeurs intrinsèques, donc je valorise et j'apprécie la nature en tant qu'elle-même, parce qu'elle est là, parce qu'elle existe et que point, quoi. Voilà, c'est tout. quand on met ce qu'on veut derrière, hein, mais la valeur utilitariste, donc celle qui est dite des services, donc elle est, je valorise la nature parce que pour mon propre bien-être et pour ma qualité de vie, et ils ont ajouté la valeur relationnelle, je valorise la nature par les relations que je crée avec elle ou par les relations que je crée avec d'autres humains à propos de la nature, des non-humaines. Et ça là me paraît intéressant comme type de valeur à déployer.
C'est sur la dernière interaction reliée à celle précédente sur les cultures autochtones, enfin amérindiennes. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste, je trouve que j'ai vécu beaucoup avec dans des communautés autochtones. Pour répondre, j'aurais tendance à dire non, il n'y a pas l'idée de nature.
Oui,
mais parce qu'ils n'ont pas l'idée d'être en dehors. Et du coup, bon, c'est un peu maladroit, hein, c'est brouillon. Mais avec vos deux derniers les services, là, alors je ne me souviens plus si la Libé, mais du coup, je reviens avec le questionnement de Descola. Quoi. Il semblerait quand même, excusez-moi, je suis brouillon, mais quand les deux dernières interventions que vous venez de faire là, sur les services, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème, je ne veux pas le résoudre là, mais vraiment se dire est-ce qu'on n'est pas basculé complètement dans une autre épistémologie et arrêter de nous sortir de la nature, quoi. On est des animaux parmi les autres. Enfin, parce que sinon, effectivement, si on invente un truc comme service de nature en disant ouais, on va pouvoir se faire entendre, mais on se fait voilà, c'est retourné tout de suite. Quoi. Enfin, je sais pas que. C'est la grosse question, hein, pour moi, donc je vous demande
non,
très bien. Mais ça me pose, tout d'un coup, là, ça me frappe.
Ouais, c'est intéressant. Et alors, je fais une anecdote, mais en fait, à chaque fois que je fais une conférence de ce type-là à des gens qui sont dans des communautés de gens scientifiques, des sciences humaines et sociales, ils me disent, la première question qui sort, c'est « Ouais, mais vous parlez des humains, de la nature et pas de la nature, mais en fait, on est dedans, hein, donc vous êtes d'accord ou pas ?» Voilà. Et donc, je dis « Ok ». En fait, moi, je suis française et je viens d'une communauté où ça fait plus de 2000 ans qu'on est sorti de la nature. Donc, c'est bien beau de dire, bah ouais, en fait, on est dedans. Mais non, on fait partie, enfin, on a un socle culturel, on ne peut pas s'en sortir juste comme ça, quoi. Donc, moi, mon idée, c'est je parle en tant qu'occidentale dans cette culture-là. Je suis ancrée dans cette culture-là et je ne vais pas avoir la prétention de dire que ce que penser comme une amérindienne. Je ne suis pas amérindienne. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, très d'accord. Le nature humain et non humain, d'ailleurs je parle de humain et non humain, mais en même temps on parle d'un point de vue humain, donc on est en relation avec on est en relation avec d'autres humains, on est en relation avec des non humains, et on peut pas s'interdire de parler de relation avec des non humains parce qu'on est des humains, enfin je veux dire, donc quelque part ce débat me paraît, c'est intéressant de se poser, mais il faut sortir de là, faut pas faire que ça, quoi, parce que sinon c'est un peu stérile,
c'est pas pour faire le débat,
mais voilà, c'est tout ça, j'ai clos,
on est nous aussi pris dans ce truc là,
ouais. Ouais, tout à fait.
J'avais juste un petit commentaire par rapport à un colloque qu'on avait en 2019 à Strasbourg, l'Université de Strasbourg, qui s'appelait l'impératif moral de la nature. Et c'était intéressant parce qu'on avait parlé de cette culture nature norvégienne autour de Friluftsliv. Et je ne sais pas si vous avez connaissance de ce terme, Friluftsliv, qui veut dire vivre le plein air, qui est vraiment une valeur... sociale, très, très ancrée dans, dans la nation, enfin, chez les Norvégiens. Et c'était assez intéressant parce qu'ils disaient cette longue vie de se rapprocher à la nature, passer des expériences de la nature, pouvait avoir un peu un travers, puisque pour expérimenter la nature, les gens s'équipaient avec du matériel fait en Chine, qui est extrêmement polluant, qui prenaient leurs grosses voitures pour aller dans les terrains de plus en plus naturels, qui prenaient des avions pour aller vivre des expériences nature beaucoup plus sauvages dans d'autres pays. Et du coup, cette relation qu'ils avaient avec la nature, cette culture nature qu'ils avaient de Friluftsliv, pouvait poser question, en tout cas, de la vraie intention de cela, qui revient à ce débat entre notre intentionnel d'éduquer vers la nature, serait-il pour un bien-être individualiste ou serait-il pour une harmonie beaucoup plus bénéficiaire de tout le monde? Et est-ce que ça serait même possible, puisque la vie et la loi de la nature, c'est la lutte?
Non, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. C'est une des lois de la nature, c'est la lutte, mais ce n'est pas la seule.
C'est pas là.
Et même Darwin, il y a là... Ouais. La moitié de son livre, c'est sur la compétition et l'autre moitié, c'est sur la coopération. Voilà. Donc après, ça a été... Mais par contre, il a écrit ce livre dans un contexte où on était dans un contexte capitaliste, hein, où il fallait... c'était la lutte pour la vie au niveau économique et il n'y a que cette partie compétition qui a été reprise. Donc voilà. Donc là, point. donc oui, évidemment. Mais par contre, la nature, c'est une question de relation. Une relation, évidemment, quelquefois, de compétition, de prédation, mais aussi de coopération et de mutualisme, hein, de la même façon. Donc, mais on fait partie de ce cycle-là. Donc nous aussi, on est des compétiteurs, des prédateurs et des coopérateurs et des mutualistes pour, avec d'autres espèces vivantes. Ouais. Mais oui. Et donc je vous arrêtais sur ce point-là. Mais oui, la culture de nature, effectivement, sur la façon de... On va dans la nature, mais on y va potentiellement pour se faire du bien à nous. Voilà. Il y a une autre façon un petit peu différente et peut-être complémentaire, voire antagoniste, j'en sais rien, mais complémentaire. Et que je revendique plus, c'est que de parler de nature de contact avec la nature ordinaire en bas de chez nous. Et finalement, cette nature ordinaire, on a l'impression qu'elle n'existe plus, mais elle existe encore. Et il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'en mettre plus, notamment dans les espaces urbains où la plupart des gens habitent. Et cette nature ordinaire, elle peut être aussi insignifiante qu'un couple de pigeons ou qu'un groupe de pigeons qui se nourrit ou que trois plantes qui poussent en bas de sur le trottoir en bas de chez soi. Et avec, du coup, une communauté d'insectes qui va arriver, des fourmis, des choses comme ça. Et quand on me dit, dans l'espace urbain, c'est pas possible d'entrer en expérience de nature, je dis, ça dépend ce que vous attendez, parce que si effectivement l'expérience de nature, c'est je vais dans un espace vierge où il n'y a plus du tout aucune perspective d'activité humaine, et je suis tout seul, et là je suis trop bien, certes, c'est pas possible dans les milieux urbains. Mais par contre, peut-être que c'est ça aussi qu'il faut changer, quoi. Et qu'on peut être en expérience de nature avec d'autres types de nature, qui sont des natures plus ordinaires. Dans son jardin, quand on a la chance d'avoir un jardin, il y a des trucs incroyables à regarder et les enfants sont fascinés avec ça. Fascinés. Et donc c'est intéressant de reprendre le temps aussi. J'aime bien citer Serge Moscovici qui était un penseur écologue, écologiste, et qui disait, on a l'impression, arrêtons d'avoir l'impression de perdre notre temps à faire ça, quoi. Faisons exprès de le prendre. Et ça, je trouve que c'était intéressant comme mantra. Quand je dis à mes étudiants, je fais des cours en master et je donne à mes étudiants en début de cours, je leur demande de passer, pour l'instant je n'ai pas rendu ça obligatoire, je propose à mes étudiants de passer 5 minutes par jour, pendant 15 jours, à observer la nature en bas de chez eux, et 5 minutes ensuite à noter ce qu'ils ont ressenti. Il n'y en a aucun qui le fait. Je demande à la fin s'ils l'ont fait, il n'y en a aucun qui l'a fait, en disant non, j'ai pas eu le temps. Je dis, j'ai passé 10 minutes, quoi. Je pense qu'année prochaine, je vais être obligatoire. Ça va être noté. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour eux. Voilà.
Le dernier sujet abordé, en fait, je fais l'hypothèse que, en fait, on ne cherche pas et on ne trouve pas, enfin, ça ne produit pas la même chose selon l'espace de nature dans lequel on est. Ça enlève rien, en fait, que l'expérience de nature en milieu urbain, si elle peut paraître... insignifiante aux yeux de certains, elle est importante. Hein. Mais je pense que là, il y a aussi des choses à... Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par le sauvage? Et des fois, le sauvage est très anthropisé. Chez nous, en Lozère, souvent, les gens disent « Waouh, vous avez des paysages sauvages ». En fait, c'est hyper anthropisé. Mais bon, voilà. Là, il y a aussi un champ de recherche. Et après, je me demandais quel regard vous portiez sur des récits type Avatar et ce que ça peut produire. Voilà.
C'est une bonne question. Avatar, c'est le premier blockbuster.
Anne-Caroline,
oui.
Tu peux juste reformuler
sa
remarque. Oui. Et puis
la première remarque, c'était que les expériences de nature, elles sont différentes en fonction des types de nature représentées. Enfin, donc on ne vit pas les mêmes expériences en milieu urbain qu'en milieu type sauvage. Sous remarque, le sauvage, soi-disant, n'est pas forcément sauvage, notamment en Lozère. Les paysages sauvages sont quand même très anthropisés, très plantés, de fait. Les forêts de châtaigniers, tout ça. Et voilà. Et puis la question, c'était qu'est-ce que je pense de Avatar. Donc oui, Avatar, il y a pas mal de gens qui me disent, ça c'est quand même génial, hein, comme relation à la nature, effectivement. Ouais. Donc j'ai regardé plusieurs fois et il y a des phrases et des façons de voir le monde qui me paraissent intéressantes, qu'on pourrait même sortir de leur contexte pour faire ce que je viens de faire là de temps en temps, les poser en extrait. Après, c'est des êtres qui sont pas des êtres humains. Et l'être humain, quand il y va, il est sacrément mal vu. Enfin, il souffre, hein, il est maltraité dans cette forêt et il est obligé de sortir de sa condition humaine pour en être. Donc je sais pas ce qu'il faut en penser en termes de perspective pour le futur. Si c'est un truc qui est trop... Après, c'est un mythe, hein, Avatar. C'est un mythe qu'ils n'ont pas inventé, hein, ils n'ont rien inventé. Donc
un autre clin d'œil sur Avatar, parce que j'étais dans le nord centre Québec, territoire Atikamekw, dans le lac Kemp, donc c'est assez loin déjà, c'est des pistes, il n'y a pas de route. Et très très loin, on était parti en canot, bon, et avec que des Atikamekw. Et les deux filles de mon ami passaient leur temps avec des arcs et des flèches faits par leur papa à se promener, et elles étaient les héroïnes de Avatar. Là, je ne sais plus comment elles étaient.
Les Navi.
Elles étaient ça. Et elles passaient leur journée comme ça.
Je voulais juste faire un commentaire sur. Je trouvais intéressant. C'est sûr, moi aussi, je suis biologiste et écologiste. Oui, et aussi, je fais l'éducation depuis. Puis je me demandais, en fait, tout votre récit sur l'importance là, de raconter les histoires des animaux et de les nommer. Et puis là, je me demandais, par rapport à l'importance du vocabulaire et de la relation qu'on a avec les vivants, les autres vivants, finalement. Peut-être aussi, on pourrait réfléchir, parce que moi, je me rappelle, en fait, toute la toponymie autochtone, par exemple, au Québec, on a la neige pendant au moins 5 mois. Non, ben, pas 5 mois, mais l'hiver est pendant au moins 5 mois. Puis, je me rappelle pas, dans le fond, tous les noms, mais je sais que la neige a plusieurs appellations différentes selon l'état dans lequel elle est. Et d'ailleurs, même la toponymie, les rivières, tout ça, on va dire, par exemple, les rivières qui se rejoignent à tel endroit pour nommer un lieu. Je me demandais, peut-être on pourrait essayer de voir s'il n'y a pas une inclusion de la phénologie dans la façon de nommer finalement les animaux, les espèces autour de nous, donc l'oiseau qui arrive. Parce que finalement la taxonomie traditionnelle, c'est vraiment pas basé sur la phénologie, pas du tout. Donc il y a peut-être aussi une réflexion à se faire en tant qu'intervenant ou chercheur ou enseignant, à réfléchir aussi à ça, comment nommer les... Même si c'est important de reconnaître tout ce que la science qui permet d'identifier finalement, mais aussi comment on pourrait ajouter justement cette valeur relationnelle dans comment on nomme les... En tout cas, je trouvais ça intéressant que vous abordiez ça aussi. Merci. Ouais,
merci. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres noms, parce que rajouter d'autres noms en fait à des animaux ou à des plantes en fonction des relations qu'on a avec eux. Donc ça peut être des relations qu'on a parce qu'on les voit à telle période de l'année, ou parce que, après si on va plus loin, parce qu'on arrive à les nourrir, parce qu'on arrive à les regarder plus facilement, parce qu'ils s'approchent de nous, des choses comme ça. Ce serait intéressant, oui, ça comme exercice, même avec des enfants ou avec des adultes, de trouver d'autres noms et d'enrichir le vocabulaire scientifique par des noms de relations. Ouais, c'est une bonne idée.
Alors, j'avais déjà une remarque aussi pour continuer sur Disney et tout ça. Il y a aussi tous les films d'animation de Studio Ghibli, de Miyazaki, etc., où là l'expérience de nature est très riche et qui ont un certain succès. Donc c'est peut-être aussi par cette dominante naturelle qui peut expliquer ça. Ma question, elle était surtout sur ce que vous disiez, les études qui montraient qu'il y avait un effet âge dans le rapport à la nature ou au système scolaire, qui faisait qu'à partir d'un certain âge, on changeait un peu d'état d'esprit. Est-ce qu'il y a des études qui ont travaillé sur, une fois que cet âge est dépassé, une fois que par exemple on a des adolescents qui ont déjà été un peu travaillés par le système scolaire ou par leur vie, combien de temps, quelle pratique est nécessaire pour pouvoir un petit peu modifier cette manière de voir les apprentissages ou le lien avec l'environnement? Est-ce que par exemple en tant qu'enseignant, une sortie dehors suffit? Combien de sorties? Avec quelle répétabilité? Quel dispositif permettrait finalement de modifier ce rapport à l'apprentissage ou ce rapport à l'environnement? Et est-ce qu'il y a...
Là, je vais vous encourager à écouter les topos de Thierry et de Laure, puisqu'elles vont parler d'adolescents dans le système éducatif. Je ne sais pas si vous allez répondre à cette question, mais sinon, non, juste, je ne sais pas. Je connais pas d'études publiées que j'ai lues qui répondraient à votre question. J'ai une anecdote, mais c'est quelque chose qui est en cours. Donc, le travail dans le cadre d'un travail que je fais avec Laure, Thierry puis Mara sur. Des systèmes de, enfin, notamment avec Mara, dans un projet européen qu'on travaille avec des sciences participatives à l'école, qu'est-ce que ça change en termes d'observatoire de biodiversité. Et les résultats sont encore intuitifs parce que je ne les ai pas analysés, j'ai juste comme ça regardé. Mais quand on a demandé à des élèves de différents niveaux de essayer de capter les représentations sociales de ce que c'était que différents animaux, les animaux qu'ils avaient regardés et étudiés en sciences participatives, observés en observatoire, notamment il fallait qu'ils listent des mots, cinq mots sur quand on leur donnait le mot inducteur vers de terre, par exemple, quand ils avaient observé les vers de terre pendant leur année, ou oiseaux. J'ai l'impression que les jeunes, donc primaire et sixième, en fin d'année, ils mettent des mots d'espèces qui sont beaucoup plus précis, genre vers anessique, épigée, etc. Parce qu'au début d'année, ils ne font pas ça. Et j'ai l'impression que où les oiseaux, pareil, ils mettent des noms d'espèces. Et j'ai l'impression que les secondes ne changent pas. Mais c'est une impression. Donc voilà, vous oubliez ça tout de suite avant que ce soit finalisé. Mais il y aurait peut-être une idée de différence entre les âges quoi, là-dessus.
Ouais. J'avais juste une question par rapport à ce qui se passe concrètement. Par exemple, dans l'éducation nationale, est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été lancées récemment, qui sont intéressantes et qui pourraient déclencher ce changement dont on parle?
Alors, je crois, moi j'étais très négative jusqu'à ce que je me fasse rappeler à l'ordre par Moïna Fauché de la Vigne, et notamment son collègue qui est là, je crois. Je ne sais plus où il est, mais je crois que j'ai. Oui, voilà. Et depuis, donc je parle sous son couvert, mais depuis 3-4 ans, ça commence à bouger. Et notamment par grâce à ce que vous faites tous et puis au collectif Classe Dehors, et qui d'abord tous dehors et ensuite Classe Dehors. Et là, il commence à y avoir des formations d'enseignants dans des formations par des instituts, des inspecteurs d'éducation nationale pour les primaires, qui permettent du coup, quand les inspecteurs sont mobilisés pour ça, ils font des formations d'enseignants et du coup, ça démultiplie les classes dehors, c'est-à-dire une demi-journée par semaine, hein, on en est là pour l'instant, mais c'est déjà énorme. Et oui, ça commence à bouger. Donc, on n'a plus le droit de dire que ça ne bouge pas.
Voilà. En fait, je me demande s'il ne serait pas plus lent de former les adultes et changer les idées qui sont déjà bien installées que juste en fait d'exposer les enfants à la nature. Et en fait, c'est eux l'avenir, la prochaine génération. Et voilà, peut-être qu'il y a aussi ça. On peut s'oublier un peu aussi, juste en voyant ce qui se passe quand on met les enfants dans la nature et en les laissant le découvrir tout seul.
Oui, alors c'est une bonne idée hein, de dire c'est les générations à venir qui vont nous changer. En fait, ça fait 50 ans qu'on le dit et ça ne marche pas. Du coup, moi, je suis maintenant du fait qu'on a d'abord, on n'a plus le temps de dire que c'est aux jeunes générations. Et puis ensuite, c'est bon sens, c'est de leur donner une charge sur les épaules qui est juste délirante, quoi. Donc, faut arrêter. Enfin, moi, je pas ça, pas que ça, quoi. Surtout pas que ça. Ouais. Ouais. Et puis alors après, le fait est que les adultes, les jeunes adultes de maintenant, vous avez eu l'éducation à l'environnement hein, quand vous étiez à l'école. Et qu'est-ce que ça a changé? J'en sais rien. Si vous êtes ici, c'est que ça a changé quelque chose. Mais dans la majorité des cas. Qu'est-ce qui se passe quand on devient ado et qu'on... Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, vous êtes plus spécialiste que moi d'éducation, mais il se passe quelque chose quand on est ado, enfin, on revient, on retrouve les codes et les règles sociales, et puis basta, quoi. Tout ce qu'on a appris petit, enfin, j'en sais rien. En tout cas, je suis assez pessimiste sur le fait... Enfin, quand on dit, si, mais il faut éduquer les jeunes, et après, c'est la génération d'après, ils vont nous sauver, non, ça fait 50 ans qu'on le fait, et les générations se sont déjà succédées. Et puis, ça suffit pas, c'est trop... Je trouve que éthiquement, c'est pas bon. Quoi. Enfin, ça me convient pas personnellement.
Merci beaucoup, Anne-Caroline.
Merci à vous.
S'il y a d'autres questions, on va poursuivre les échanges. Je propose qu'on applaudisse bien.